commencer du coup avec un petit peu de retard. Merci d'être venu si tôt un samedi matin pour cet atelier qui a été intitulé « De l'anticolonialisme à la critique postcoloniale ». On aura trois interventions. La première par Jean-Jacques Cadet, qui est doctorant en philosophie ici à l'Université Paris 8. Qui sera suivi par Adler Camillus, docteur de l'Université Paris 8 ou Paris 16
Paris 8
et enseignant, si tu me rattrapes, à l'Université d'État d'Haïti.
Exactement.
Et enfin, dans un troisième temps, Stéphane Dufoy, professeur en sociologie à l'Université Paris 10 Nanterre, La Défense.
Voilà, vous avez... qui n'est plus ni 10 ni La Défense,
Paris
juste
Ouest.
Paris Nanterre maintenant.
Voilà. Paris Nanterre.
Ça a changé l'an dernier encore. Paris Nanterre.
Donc, vous avez une vingtaine de minutes chacun.
Bon, bonjour à tous et à toutes. Ma communication se base sur une analyse approfondie des grandes thèses du mouvement communiste en Haïti. L'idée consiste à cerner la réception du marxisme, léninisme, dans un pays où le mode de production capitaliste n'est pas au rendez-vous. Notre attention sera tournée vers les relectures du communisme par les militants haïtiens, afin qu'ils prennent en compte la réalité haïtienne. La problématique en question ici est le déplacement du mouvement communiste d'origine européenne, parce qu'il a pris naissance en Europe, vers la société postcoloniale haïtienne. Dans quelle mesure le communisme préconisé par les militants haïtiens serait une remise en question du système colonial européen? Peut-on parler d'un communisme, entre guillemets, décolonial chez ces penseurs militants? Comment ont-ils pu revoir les postulats d'un mouvement politique qui, à un certain moment, éclipsait le monde non-européen dans leur théorie globale? Le communisme haïtien débute sous l'occupation américaine d'Haïti entre 1915 et 1934. Avant cet événement, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, on a dénombré des syndicats et organisations ouvrières et paysannes dont la finalité n'était pas une société sans classe. Michel Hector a traité cette thématique dans ses écrits sur les mouvements populaires. Des idées communistes se font sentir dans les années 1930 avec Jacques Roumain. Le mouvement sera réellement effectif en 1932 suite à leur voyage aux États-Unis, en parlant de Jacques Roumain, Christian Beaulieu et Étienne Charlier, suite à leur voyage aux États-Unis sous l'invitation du poète Langston pour rencontrer des militants communistes. C'est pendant ce voyage qu'ils ont rédigé l'analyse schématique 32-34 qui trace la voie de désoccupation du pays dominé par l'impérialisme américain. En 1934, sous l'initiative de Jacques Roumain, le premier parti communiste haïtien a été créé pour structurer ce mouvement qui a longtemps existé clandestinement. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Roumain, c'est un écrivain militant haïtien, beaucoup plus connu pour son roman « Gouverneur de la Rosée », publié en 1944 et qui a été traduit dans 32 langues. Il est né en 1907 et mort en 1944, à 37 ans, suite au paludisme, attrapé en prison pour avoir créé ce parti. Il est le premier descendant d'Africains à avoir fondé un parti communiste dans son pays, est nommé secrétaire général du parti et siège à son comité central. Ce parti n'a fait que 2 ans d'existence et n'a laissé qu'un seul document, analyse schématique 32-34, qu'on va essayer d'analyser. Dans cet ouvrage, les grandes thèses du communisme haïtien sont posées pour la première fois avec toutes leurs nuances par rapport aux grands postulats européens. Il devient nécessaire de présenter ce livre afin de saisir les traductions de ce mouvement en Haïti, en parlant du mouvement communiste. Pour bien comprendre la question, on va brièvement présenter le contexte de cet événement pour ensuite évoquer le rapport de Roumain au soviétisme, notamment avec Lénine, et enfin exposer les grandes idées du communisme haïtien dans ce livre qu'on va analyser à l'analyse schématique. Le contexte de l'avènement du communisme en Haïti. De 1915 à 1934, Haïti a subi une occupation américaine causant plusieurs milliers de morts et des dégâts matériels considérables. Les Américains ont exploité les ressources haïtiennes et profitent aussi pour exproprier les paysans afin de faciliter la pénétration des entreprises étrangères. Cette dépossession a soulevé la colère des paysans, notamment avec le mouvement CACO, Chamla Perat et Benoît Batraville. ce qui a causé de brutales répressions du côté des occupants. Sur le plan politique, c'était la période des dictatures de Louis Borloo et Sténéo Vincent. Louis Borloo, président d'Haïti de 1922 à 1930, a influencé la presse et emprisonné plusieurs militants. En 1927, il avait envisagé un troisième mandat. Les étudiants se sont mis en grève en 1929 pour exprimer leur désaccord. Louis Borloo sera remplacé en 1930 par Sténéo Vincent, qui restera président jusqu'à 1941. Dès l'arrivée de Sténéo Vincent au pouvoir, il poursuit les répressions politiques contre les militants communistes et interdit le PCH en 1936. Jacques Roumain a été emprisonné deux fois par ces deux présidents pour ses convictions communistes. Pendant cette période, c'est-à-dire pendant la période de l'économie, pendant la période de l'occupation américaine, 1915-1934, l'économie haïtienne vacillait entre le féodalisme et le capitalisme. Il était question d'une économie agraire, largement dominée par le travail des paysans. C'était aussi le début de l'industrialisation entamée par le capital étranger. Cette industrialisation a prolétarisé les paysans et a augmenté le nombre des ouvriers. À partir de 1915, on signale l'existence de 25 000 ouvriers agricoles sur une population de 3 millions d'habitants, dont 2 millions furent des paysans. Ainsi, on peut dire que la classe ouvrière existe à peine pendant cette période, ce qu'on peut expliquer par les différents mouvements de protestation qu'ils ont soulevés. Les ouvriers se sont organisés pour exprimer leur mécontentement. Depuis 1894, on a eu la naissance d'une association ouvrière. En 1903, ce fut la création du syndicat des ouvriers cordonniers haïtiens. En 1919, 4 ans après l'occupation américaine, on a assisté à la première grève de l'histoire du mouvement ouvrier par les travailleurs de la ASCO. La question des conditions de travail était déjà évoquée avec la première législation, la loi du 30 mai 1924, créant le département du travail. Tous ces éléments montrent l'implication des ouvriers dans les luttes contre l'impérialisme américain, ce que rapporte Maurice Casséus dans son roman « Prolétarien vieux », publié en 1935. L'occupation américaine 1915-1934, les dictatures de Louis Borloo et Sténéo Vincent, une société encore dominée par le mode de production féodal et une faible classe ouvrière constituent le contexte dans lequel le mouvement communiste a fait ses premiers pas en Haïti. Le besoin se fait sentir au moment où il fallait tourner le dos au mouvement nationaliste apparemment incapable de combattre l'impérialisme. Il a fallu une théorie de tendance internationaliste où les questions de classe auraient leur place. Jacques Roumain a jeté son dévolu sur le marxisme-léninisme dès son retour des États-Unis en 1932. Maintenant, on va voir l'admiration de Jacques Roumain pour la révolution russe 1917, et c'est là que vont déclencher ses grandes idées communistes. Jacques Roumain est un lecteur de Lénine et n'a jamais caché son admiration pour le leader de la révolution bolchevique. Il écrit dans une lettre à sa femme Nicole en 1939, je cite, « Maintenant, il faut absolument que tu lises l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Après la maladie, là, il n'a pas fini de citer le livre, c'est le bouquin me passionnant d'ailleurs qui jette la plus vive lumière sur l'histoire actuelle. » Fin de citation. Ces deux livres de Lénine sont très importants à ses yeux. Dès 1928, il cite Lénine parmi, je cite, « ceux qui comptent dans ce siècle » pour lui. Fin de citation. À l'occasion de son anniversaire en janvier 1941, il évoque l'importance de la pensée et l'action de ce géant, dit-il, qui s'est engagé dans la lutte pour la libération de l'humanité. Il estime que ce révolutionnaire, en parlant de Lénine, doit être honoré pour avoir déclenché la révolution bolchevique comme vecteur de sensibilisation des autres peuples dominés. Il écrit dans une lettre à sa femme Nicole, je cite, « Hier était l'anniversaire de Lénine. Tu comprends que j'associe le souvenir de ce géant et de sa pensée à nos préoccupations d'aujourd'hui comme une marque de confiance invisible dans le destin de l'humanité, dans sa lutte pour la libération. » Fin de citation. Dans sa polémique avec le père Foissé en 1942, il a mobilisé l'approche léninienne de la dialectique pour, dit-il, donner un petit coup de sociologie marxiste à son contradicteur. Ainsi, on peut dire qu'il était grandement influencé par le leader russe au point que certains commentateurs le situent dans un marxisme léniniste. Maintenant, on va parler de sa conviction communiste. Deux éléments expriment la conviction communiste de Jacques Roumain avant même la fondation en 1934 du Parti communiste haïtien. Le premier est sa lettre à Tristan Rémy. Tristan Rémy, c'est un journaliste français, l'un des promoteurs en France de la littérature prolétarienne. Le premier est sa lettre à Tristan Rémy en janvier 1932, qui lui avait demandé de publier en France La montagne ensorcelée, le premier roman paysan haïtien. Dans une lettre dont le brouillon a été retrouvé en janvier 1933, il se présente comme un écrivain de conviction communiste qui n'arrive pas encore au praxis révolutionnaire à cause de la situation délicate d'Haïti. Il écrit, je cite, « Je suis communiste, non militant pour l'instant, parce que les cadres d'une lutte politique n'existent pas encore en Haïti, je m'applique à Prépal. » Fin de citation. Roumain précise qu'il va instaurer le cadre politique permettant l'émergence de l'engagement communiste en Haïti. Il pensait bien sûr au Parti communiste qui sera officiellement fondé en 1934. Mais les dispositifs ont été mis en place dès 1932, ce qui veut dire que Roumain voulait fonder depuis 1930 le PCH afin que les communistes non militants, entre guillemets, disons de conviction, puissent vraiment s'engager. L'autre élément est son voyage avec d'autres camarades haïtiens, comme Christian Beaulieu, aux États-Unis en 1932, pour voir son ami Linson, qu'il a rencontré en Haïti l'année précédente. Ce voyage peut être considéré comme l'élément déclencheur de son devenir marxiste. L'analyse schématique 1932-34 est le symbole de cette conversion idéologique. Dans cet ouvrage, Roumain évoque très souvent le capitalisme américain en pleine crise qui, de concert avec les élites haïtiennes, exproprie les paysans. Il profite aussi pour critiquer l'orientation des partis politiques existants en posant les grandes thèses du premier parti communiste haïtien. Là, on va présenter le livre Analyse schématique qui est, selon les commentateurs haïtiens, la première interprétation marxiste de la société haïtienne. C'est dans ce livre aussi qu'on va trouver les grandes thèses du communisme haïtien et on va voir comment Jacques Roumain s'est démarqué de certains postulats du communisme, disons, entre guillemets, européen. Ce texte, en parlant de l'analyse schématique, ce texte de 18 pages est un manifeste du comité central du PCH. Signé par Jacques Roumain, il est publié à Port-au-Prince chez Valsin en juin 1934. Étienne Chalieu et Christian Beaulieu y ont participé. Il est divisé en trois parties. La première, écoulement du mythe nationaliste, fait un diagnostic du mouvement nationaliste qui n'arrive pas à embrasser les revendications des travailleurs. Ce mouvement, en parlant du nationalisme, se montre impuissant devant l'impérialisme américain, statut suprême du capitalisme. La question de la lutte des classes trouve sa nécessité ici au détriment de la question de couleur prônée par les nationalistes. La question de couleur n'est pas totalement rejetée, mais est considérée comme une manifestation des enjeux de classe. D'où la deuxième partie de ce livre, Préjugés de couleur et lutte des classes, qui montre la pertinence des luttes de classe pour bien combattre le capitalisme étranger, parce qu'on est toujours en pleine occupation américaine. La troisième partie, critique du manifeste de réaction démocratique, s'oppose aux grandes thèses, d'un parti de droite existant à l'époque. Ce qui nous intéresse à travers ce livre, c'est beaucoup plus la question de la lutte des classes. Dans le deuxième chapitre du manifeste, le mot d'ordre du parti est lancé. Je cite, « La couleur n'est rien, la classe est tout. » Ce principe pose la prédominance de la lutte des classes sur la question de couleur encore dominante à l'époque. Il soulève aussi un enjeu idéologique fondamental dans un parti à 98% noir. Il n'y est pas question de rejeter les préjugés de couleur, il faut plutôt les voir comme, je cite, « l'expression sentimentale de l'opposition des classes et de la lutte des classes ». Fin de citation. Ils sont, ajoute Jacques Roumain, la réaction psychologique d'un fait historique et économique, l'expression sans fin des masses haïtiennes par la bourgeoisie. Ainsi, le PCH ne doit pas escamoter ses préjugés, car il nous permet de bien comprendre les contradictions de classe qui traversent la société. Le manifeste, en parlant de l'analyse schématique, invite à articuler la lutte contre le racisme à celle contre le capitalisme. Il ne nie pas les multiples avilissements des Noirs, parce que le parti, il comporte 98% de Noirs. Il estime que ce phénomène n'est pas une simple affaire d'opposition de couleur, il est l'expression d'une oppression économique ayant pour base la lutte des classes. Il vise une transposition de la question de couleur sur le terrain économique afin de le vider systématiquement de son contenu épidermique, ce qui est expliqué ainsi par Jacques Roumain. Le PCH pose le problème scientifiquement, sans nier aucunement le bien fondé des réactions psychologiques des Noirs blessés par des mulats. Fin de citation. Si on veut le combattre, en parlant du racisme, il faudra l'attaquer à sa base matérielle, où converge la lutte des classes, l'exploitation économique, la domination politique et la discrimination culturelle. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre la devise du parti. Contre la solidarité bourgeoise capitaliste noire, mulatte et blanche, fond prolétariat sans distinction de couleur. Le manifeste s'est accentué sur le capitalisme comme responsable de l'exploitation des masses populaires haïtiennes. Il puise dans les contradictions de ce mode de production les sources du racisme. L'ennemi principal est la propriété privée des moyens de production qui empêche toute intervention publique pouvant améliorer les conditions de vie des prolétaires. Il écrit à propos de la réaction démocratique, un parti de droite existant à l'époque. Je cite « La propriété privée capitaliste rend absolument illusoire toute intervention de l'État en vue de créer une économie rationnelle. Elle a comme règle d'action la course au profit. » Fin de citation. Toujours à propos de la propriété privée, Jacques Roumain ajoute, je cite, « Elle aboutit à la monopolisation des ressources de l'économie nationale au profit de la bourgeoisie internationale et de ses sous-ordres haïtiens. » Fin de citation. Le manifeste place au centre de son programme politique la question de la lutte des classes. En la minimisant, on risquerait de ne pas toucher la base des crises structurelles de la société. Jacques Roumain affirme, le reproche capital à faire à la RD, c'est la réaction démocratique, c'est un parti de droite, c'est qu'elle n'a pas tenu compte dans l'élaboration de son programme politique du fait de la lutte des classes. Ce qui la condamne à concilier sur le papier des inconciliables dans la réalité, à nager en plein dans l'illusionnisme politique et à préparer au prolétariat national de terribles réveils, ce qui jamais celui-ci se laissait embrigader. Fin de citation. Il invite aux militants de ce parti de droite à raisonner en termes de classe, pas en termes de personnes séparées. Il remonte depuis la fondation de la nation haïtienne en 1804 pour montrer l'importance de cette question dans l'histoire de ce pays qui a connu l'esclavage pendant plusieurs siècles. Cet intérêt pour la question des classes vient de sa déception du mouvement nationaliste. Avec l'arrivée au pouvoir en 1931 du nationaliste, entre guillemets, Stenio Vincent, ce mouvement est en porte-à-faux aux revendications des masses paysannes. Le nationalisme haïtien est une réaction contre l'exploitation des paysans par les Américains. Il était, en parlant du nationalisme, il était une lutte constante contre l'impérialisme et la bourgeoisie. Ses racines sont, écrit Jacques Roumain, dans la souffrance des masses, dans leur misère économique accrue par l'impérialisme américain et leur lutte contre le travail forcé et la dépossession. Fin de citation. C'était une initiative politique des classes défavorisées contre les élites haïtiennes. À partir des années 1930, en parlant du nationalisme encore, il prend une orientation bourgeoise où les questions de classe et d'exploitation sont rejetées au profit d'une certaine union nationale. Ainsi, le mouvement a perdu son essence politique de lutte contre le capitalisme. Jacques Roumain avance ceci. Je cite, « Le mouvement nationaliste fut incapable de remplir ses promesses parce que les promesses du nationalisme bourgeois se heurtaient dès la prise du pouvoir à ses intérêts de classe et se révélaient une duperie électorale. » Fin de citation. Cette question d'intérêt de classe sera au centre des préoccupations centrales du Parti communiste haïtien. L'objectif du parti est clairement défini dans ce manifeste. Je cite Jacques Roumain. « La tâche du PCH consiste à faire prendre conscience de leur intérêt de classe identique à ces différentes couches du prolétariat national et à en faire un front commun destiné à faire rendre gorge à l'impérialisme exotique, exploiteur et à sa complice, la plutocratie haïtienne. » Fin de citation. Suite aux dérives du mouvement nationaliste, le PCH insiste sur le travail idéologique afin que les prolétaires soient en mesure d'identifier leur propre intérêt. Les dirigeants du PCH, particulièrement Jacques Roumain, s'appuyaient sur la pensée marxiste pour soulever cette conscience de classe. Roumain visait les paysans, car majoritairement de la société haïtienne, qui en fait le sujet de la transformation sociale. D'où son hypothèse de prolétariat paysan, qu'on ne va pas développer ici, qui est l'un de ses déplacements opérés par rapport au communisme européen. Jacques Roumain est arrêté 2 mois après la fondation du parti en juin 1934. Il est accusé de comploter avec l'étranger, d'en recevoir des tracts et des armes, de préparer des attentats. Il est condamné à 3 ans de prison, toujours pour avoir créé le PCH, mais sera exceptionnellement libéré en juin 1936. Ces 2 ans de détention ont détérioré sa santé. Depuis sa libération en juin 1936, il était sous haute surveillance de la police du président Sténio Vincent. En août 1936, il est expulsé d'Haïti vers l'Europe pour 6 ans. C'est l'exil le plus long de sa vie. Pendant cette période, le mouvement communiste était quasiment absent en Haïti, ce qui n'empêche qu'il gardait ses convictions communistes jusqu'à sa mort. Quant au parti, il est frappé d'interdiction par un décret daté du 19 novembre 1936. Dans ce décret, on a aussi invalidé légalement des mots comme capital, parti, syndicat, ouvrier, classe communiste, etc. Selon René Depestre, on a lancé un mandat de dépôt contre eux. Je cite le nommé Karl Marx, un chef agitateur d'origine germanique que le Comintern, c'est le troisième international, a infiltré en Haïti afin d'alourdir avec le citoyen roumain un complot contre la sûreté de l'État. Fin de citation. Donc, le parti a fonctionné pendant 2 ans. Son journal, qui s'appelle Vigie, a été fondé en 1936 et n'a publié aucun numéro. Ce parti n'a pas eu le temps d'atteindre son objectif. D'ailleurs, pendant ces 2 ans, son secrétaire général, dans la personne de Jacques Roumain, était sous les verrous. Ce parti a quand même réalisé certaines choses dont les traces nous sont inconnues. D'ailleurs, ce parti n'a jamais été légal. Ce qui explique pourquoi ses actions étaient clandestines. Pour conclure, il faut dire qu'avant même l'avènement du communisme dans les années 1930, il y avait des organisations ouvrières en Haïti. La première grève ouvrière date de 1919 avec les travailleurs de l'ASCO. Néanmoins, ces mouvements n'étaient systématiquement organisés et en plus, ils ne visaient pas le système capitaliste. Les questions de lutte de classe, d'exploitation et d'impérialisme n'étaient pas au rendez-vous avec ces mouvements ouvriers qui précédaient Jacques Roumain. Avec le PCH, la situation prend une autre ampleur idéologique et en au centre la propriété privée des moyens de production. Le communisme commence à partir du moment où la lutte tend vers les contradictions du capitalisme dans un projet de classe, dans un projet de société sans classe. Roumain n'a pas transposé le communisme vers Haïti, mais il l'a relu en fonction de la réalité haïtienne. Le communisme haïtien est le résultat de l'affrontement des idées marxistes avec le contexte haïtien. À ce propos, je finis avec une citation de Roumain qui montrait cette tentative de déplacer le communisme de son lieu européen. Les possibilités du fasciste ou du communiste placé sur le terrain haïtien, il fallait s'attendre à la riposte. Haïti est un cas spécifique, hermétiquement limité à son cadre national. Fin de citation. C'est sur cette citation que je termine mon intervention, juste pour montrer comment Roumain, par le biais de la fondation du PCH, a déplacé le mouvement communiste léniniste de son lieu européen. Merci.
Merci Jean-Jacques. Je passe tout de suite la parole à Pierre Clément.
Bonjour. Je vous remercie de l'invitation et de votre présence ici. Ma communication s'intitule « Haïti et les sociétés postcoloniales, colonisation de la vie et pathologie sociale postcoloniale ». Ma prétention dans cette communication n'est pas de présenter un travail achevé, mais d'indiquer quelques voies hypothétiques possibles par rapport à ce que j'avais tenté de faire dans ma thèse et par rapport à ce qui fait habituellement depuis plus de 200 ans autour du nom même d'Haïti, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Il s'agira de préférence de rendre compte ou d'assumer cette nouvelle interprétation qui me met mal à l'aise par rapport à ce que j'avais tenté de faire et par rapport à ce à quoi je me suis tourné pour interpréter quelques questions qui renvoient particulièrement à Haïti, parce que c'est un cas singulier par rapport à son expérience, à la fois servile et révolutionnaire, mais en même temps qui renvoie généralement par rapport, qui renvoie aux sociétés postcoloniales. Donc cette interprétation qu'il s'agit d'assumer ici aurait pour ambition de libérer les sciences sociales attentives aux sociétés postcoloniales, en particulier Haïti, tout en étant plus attentif, c'est ce qui m'intéresse, au devenir de ces sociétés-là. C'est-à-dire comment, par quelle dynamique les sociétés marquées par la colonisation, par l'esclavage, peuvent-elles devenir elles-mêmes. Donc cette image devenir, du devenir des sociétés postcoloniales renvoie à Nietzsche. Comment la métamorphose du colonial sous le masque du postcolonial entrave-t-elle le désir d'émancipation qui s'exprime dans les luttes sociales et dans les luttes de classe en Haïti et ainsi dans les récits imaginaires qu'on trouve dans les littératures. Donc la question qui m'intéresse ici, c'est d'opérer un déplacement qui permet de se rendre compte de la métamorphose du colonial en postcolonial, c'est-à-dire le fait que le postcolonial ne permet pas d'emprunter une voie émancipatrice qui rend possible l'effectivité de la promesse révolutionnaire et des sociétés marquées par la colonisation et l'esclavage, mais en même temps de se demander si les luttes sociales elles-mêmes n'étaient pas entravées dans une dynamique qui renvoie encore une fois à l'expérience coloniale esclavagiste sans m'enfermer dans un a priori qu'on retrouve systématiquement dans les travaux sur les sociétés postcoloniales et particulièrement sur Haïti, qui consiste à dire que le présent est la répétition du passé. C'est ce qui m'embête, cette répétition du passé, et donc c'est ce qui rend impossible toute exigence d'émancipation, puisque le passé étant ici considéré comme l'expérience servile. Donc si le passé se répète au présent, donc il n'y a pas d'émancipation possible, il n'y a pas de révolution possible. Donc après la vague théorique postcoloniale et décoloniale, je me demande si on ne devrait pas tenter de penser ce que j'aimerais proposer sous le nom d'acolonial ou une proposition, je dirais, d'acolonialité, c'est-à-dire A avec comme privation, c'est-à-dire quelque chose qui empêche le colonial de se métamorphoser, de se répéter au présent. Quelque chose qui tend à penser en même temps les blessures du colonial et donc, d'un autre côté, les exigences sociales qui s'expriment dans les conflictualités sociales, dans les rencontres entre le pouvoir et les formes de résistance qui tentent de traverser, de contourner les modes de domination. Donc la coloniale ici comme pratique théorique qui pense le colonial et le postcolonial comme blessure et comme tort tentera en même temps de faire le deuil du colonial, c'est-à-dire de contourner l'enclos même, le colonial comme enclos, quelque chose qui enferme les sociétés postcoloniales dans leur déboire, dans leur insoutenable détresse. La figure d'Haïti, en tout cas Haïti comme nom ici, incarne bien cette entrave-là, cet enclos, parce que c'est la première expérience de transformation contre l'esclavage, contre le colonialisme, et en même temps l'exemple d'un échec évident de la promesse révolutionnaire. C'est ce double nœud-là, quelque chose qui ouvre une voie et en même temps le lieu où cette voie s'est brutalement refermée sur elle-même. Donc, si la proposition de la colonialité tente de se rendre compte de la métamorphose du colonial sous le masque du postcolonial, j'aimerais, dans ce qui va être esquissé comme proposition, non pas comme analyse achevée, redéfinir la décolonialité comme praxis émancipatrice dont l'effectivité peut être vérifiée dans la mise en œuvre du social, dans les luttes sociales, dans la configuration sociale. Donc, ce qui vient d'être esquissé brièvement ici opère déjà un certain nombre de déplacements par rapport à la thèse que j'avais défendue ici, en interprétant la révolution haïtienne comme une révolution qui porte en elle-même ce que j'avais appelé les scènes décoloniales qui entrent en contradiction avec la répétition du colonial. Alors, je me suis rendu compte que les scènes décoloniales ne produisent pas les effets des déplacements escomptés parce que la répétition, les formes de mise en œuvre du pouvoir semble être prise dans le colonial ou dans la métamorphose du colonial. Donc, si j'aurais pu organiser ma communication en partie, j'intitulerais, en tout cas, si je devais organiser ma communication en partie, j'intitulerais la première partie « Comment réécrire le présent postcolonial ?» Donc, j'aimerais garder implicitement mes références qui sur la question de la répétition du colonial en Haïti, ça renvoie aux années de 1800, 1900, jusqu'aux années 2000. On retrouve la même hypothèse, mais jamais complètement éprouvée, l'idée qui consiste à dire que le présent, donc je caricature et schématise, mais c'est le fond de la question, l'histoire d'Haïti est... D'une certaine manière, l'histoire de certaines sociétés coloniales est la répétition de leur expérience, comme s'il y avait un imaginaire hanté par le colonial, une subjectivité qui n'arrive pas à se déployer au regard de la promesse qu'elle avait faite elle-même au monde. Donc l'écriture des sociétés postcoloniales s'inscrit en ce sens dans un exceptionnel rapport au temps. Je renvoie ici à un ouvrage de 1958 qui s'appelle d'un haïtien qui s'appelle David Placide, qui s'intitule « L'héritage colonial en Haïti ». Il y avait un article d'un Africain dont le nom est Victor Nyasenyu, quelque chose comme ça, j'ai le mal orthographié ici. « Haïti, le défi d'un nouveau régime d'historicité qui reprend la même image ». Il y a les travaux de Leslie Payan sur deux siècles d'histoire. Donc, toute la littérature haïtienne... On retrouve aussi le même penchant dans des travaux sur certaines sociétés africaines qui consiste à représenter le schéma postcolonial dans une répétition. Donc cet exceptionnel rapport au temps se traduit ainsi, la répétition du passé non symbolisé qui engendre les différentes, c'est-à-dire qui ne sont pas surmontées, qui ne rendent pas possible une transformation de la société, qui engendre les différentes figures du potentat, des subjectivités hantées, et celui d'un devenir pris dans la réification de ce passé, c'est-à-dire la répétition de ce passé. Donc l'extension du passé au présent et l'impossibilité d'un futur alternatif semblent déterminer le caractère insoutenable du présent, c'est-à-dire qu'un temps avec lequel on ne peut pas se réconcilier. Donc, en ce sens, toute promesse de transformation de la société semble vouée à l'échec parce qu'il y aurait là un impératif à ce que la société répète son échec. Il y a beaucoup de travaux sur lesquels je ne veux pas m'attarder qui reprennent cette idée-là. En ce sens-là, la question qu'on peut se poser, c'est comment penser l'après, c'est-à-dire comment penser après la révolution et donc comment penser le présent. L'idée de comment penser l'après n'est pas mienne, elle est celle de Séloua que je reprends ici dans son texte, l'Afrique et ses fantômes. Donc on retrouve ici la même image, les fantômes déterminent le présent parce qu'elles traduisent une répétition du passé. Donc, comment penser l'après de la colonie en tenant compte de ce rapport au temps? Donc, on peut trouver une voie alternative chez quelqu'un comme Bonaventura de Sousa Santos dans son ouvrage, dont je vais vous indiquer le titre à l'instant. Contre ce schéma, le travail de Santos peut être considéré comme l'ouverture vers l'effectivité des possibilités émergentes. Dans cet ouvrage... intitulé « Épistémologie du Sud, mouvement citoyen et polémique sur la science », publié dans une version traduite en 2016, Santos y oppose une rationalité cosmopolite subalterne. Si la conception des préférences de la rationalité selon Santos occidentale est une contraction du présent et une extension de l'avenir, Santos y oppose une rationalité qu'il appelle cosmopolite subalterne, qui au contraire passe par la contraction de l'avenir et l'extension du présent. Donc c'est l'inverse. Cette contraction, cette extension du présent nécessite pour lui ce qu'il appelle une sociologie des absences. La contraction de l'avenir requiert au contraire une sociologie, dit-il, des émergences. Cette double condition élargit le monde rétréci par la rationalité occidentale afin, dit-il, d'inclure l'immense diversité des expériences sociales marginalisées. Il me semble que ce sont C'est vers ces expériences-là qui ne sont pas toujours prises en compte dans la littérature sur les sociétés présentées comme l'exemple d'un échec qu'on devrait tourner pour tenter de comprendre, en tout cas de penser la condition d'une émancipation possible. Face à cela, Santos qualifie, en tout cas détermine cette contraction parce qu'il appelle une raison métonymique qui se manifeste par la modernité occidentale et fonde l'expérience coloniale. C'est-à-dire, la sociologie des émergences devient la critique de cette raison. C'est la figure de style ici, la raison métonymique, détermine la critique de cette raison, fait surgir les expériences sociales marginalisées et étendre le présent. Donc si on peut penser le présent, il faut l'étendre au-delà de la répétition du passé. Son but ici, je cite, est de libérer les pratiques, c'est-à-dire cette extension du présent. Voyez, dans le schéma que j'ai esquissé au début, il y a contraction du présent, puisqu'il est déjà répétition du passé. Or, le but ici, c'est d'étendre le présent, de libérer les pratiques sociales de leur statut de résidu, de leur transférer leur propre temporalité et de cette façon, continue Santos, d'ouvrir la possibilité d'un développement autonome. Donc la raison pour laquelle la société est toujours présentée comme l'exemple d'un échec, non pas au regard de son propre développement, mais au regard d'un modèle de développement, on va dire, occidental. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre ici? En tout cas, que peut faire la sociologie des émergences? Pour Santos, elle suppose une critique de ce qu'il appelle une raison proleptique. Cette raison se traduit par une connaissance de l'avenir qui se réalise en dépassant le présent automatiquement. En ce sens, alors, le futur arrive au contraire comme ce qui est rare et résulte du soin, dit Santos. Ainsi, la critique de la raison proleptique engendre l'extension du présent en passant par la sociologie des émergences. L'idée de sociologie des émergences et sociologie des absents renvoie à l'émergence et à la surgissement, donc à l'apparition ou la visibilité des expériences sociales marginalisées, des sujets marginalisés, que ce soit le nègre, l'esclave, l'arabe, ou donc des sujets où la femme est prise dans une dynamique de domination fondée soit sur le capital, soit sur le genre, soit sur la race. Donc, la raison politique engendre l'extension du présent en passant par la sociologie des émergences et la contraction du futur, dit Santos, elle est obtenue par la sociologie des émergences qui libère un horizon de possibilités et de virtualités au présent. Donc, si le présent porte des virtualités qui doivent être prises en compte, non pas au regard de la répétition du passé, mais au regard de ce que ces virtualités portent en elles-mêmes, donc nous pouvons inscrire les luttes sociales qui portent une exigence d'émancipation au présent. C'est-à-dire, ces luttes-là peuvent être contemporaines de leur sujet et non pas analysées au regard d'une expérience du passé. Donc, si la sociologie des émergences est l'ouverture de cet horizon des virtualités au présent, la sociologie des émergences comme l'ouverture de cet horizon où ce qui arrive se manifeste comme possibilité plurielle et concrète dont l'effectivité se vérifie dans les luttes sociales. Donc, comme possibilité plurielle et concrète portée par les pratiques sociales contre la répétition du passé. C'est-à-dire, ce qu'on trouve ici, c'est l'ouverture d'une possibilité où le cercle de la répétition du passé peut être fermé et la question de l'émancipation peut être posée à nouveau. Tandis que pour Santos, la sociologie des absents agrandit le royaume des expériences sociales déjà disponibles, c'est-à-dire les expériences du Sud, pensées par l'épistémologie du Sud, qui ne sont pas toujours prises en compte dans le récit de la modernité. La sociologie des émergences agrandit, dit-il, le royaume des expériences sociales possibles. Donc les expériences sociales possibles, ce sont celles qui sont à venir, qui sont inscrites dans le présent. Les expériences sociales déjà disponibles, ce sont celles qui sont inscrites dans le passé et qui peuvent nous éclairer sur ce qui est à venir. Donc en ce sens-là, on peut fermer le cercle de la répétition et repenser ou réécrire le présent postcolonial des sociétés marquées par la domination coloniale esclavagiste. Mais on se rend compte que le processus de libération ne prend pas toujours la forme d'une scission du schéma décrit au début, c'est-à-dire la répétition, mais celle de la métamorphose de l'ex-colonisé en maître et de l'ancien maître en instituant symbolique de la civilité démocratique. Ce qu'on peut entendre par la métamorphose de l'ex-colonisé en maître, c'est le fait que l'ancien esclave est devenu un maître face aux autres anciens esclaves. Cette image est formidablement déployée par Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe et dans le royaume de ce monde de Carpentier. On retrouve Christophe décrit comme un potentat postcolonial, donc un maître au milieu des individus dont il se donne la charge de rendre possible la libération par la civilisation. Donc, si l'institution, la métamorphose de l'ex-colonisé en maître, est posée face à l'institution symbolique du maître comme incarnation de la civilité républicaine, donc toute question de l'émancipation prendrait la forme d'un refus d'un impossible travail critique sur soi. D'où l'intensité de la violence postcoloniale qu'on retrouve entre frères au sein d'une même fratrie. Ici, c'est l'image, c'est la citation synthétisée de Achille Mbembe dans de la postcolonie, essai sur l'Afrique décolonisée. Ce processus alors s'apparente, c'est-à-dire le processus de la libération dans les sociétés postcoloniales, s'apparente à une scission éthico-subjective qui donne lieu, et encore une fois Haïti est l'incarnation parfaite, à des micro-États divisés parfois en trois États pendant certaines périodes de l'histoire, où la violence et la surdétermination des signes de la mort deviennent le lieu de l'écriture spectrale de l'histoire, c'est-à-dire où l'histoire devient la matérialisation même de la répétition de l'expérience esclavagiste. On trouve cette image dans la littérature, par exemple dans un texte de 1952 d'Amos Tutiola, intitulé « L'ivrogne dans la brousse et le royaume de ce monde des Carpentiers, la tragédie du roi Christophe », également dans « La vie et demie » de Tansy de 1979, et plus récemment dans le roman d'Edwige Dantica, la romancière haïtienne, intitulée « Les briseurs de rosée ». Donc, ici, ce qu'on retrouve ici, c'est la surdétermination de la violence qui est liée à la répétition de l'expérience coloniale esclavagiste. Il me semble, encore une fois, que toute l'histoire est ici thématisée comme la répétition du passé. Donc si l'histoire est la répétition de l'expérience du passé, de l'expérience coloniale esclavagiste, le présent lui-même devient un autre moment de servitude, donc une absence totale d'émancipation. Donc ici, j'aurais pu intituler ce deuxième temps « De la colonisation de la vie à la vie morte », en conformité au titre que j'avais proposé. Par rapport à ce qui vient d'être esquissé ici, on peut penser qu'il en découle ce que je peux appeler une colonisation de la vie. Colonisation de la vie qui est produite par les pathologies sociales postcoloniales, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques sociales et des mises en œuvre de la configuration du pouvoir qui viennent entraver le processus d'émancipation ou qui viennent contourner, neutraliser les exigences d'émancipation qu'on trouve dans les luttes sociales, y compris pendant l'occupation américaine avec les CACO, à laquelle Jean-Jacques Cadet a fait allusion tout à l'heure, y compris un peu plus tôt, en 1848, avec les paysans du Sud, pendant la révolution contre les régimes de Boyer. Donc on entendra ici par colonisation de la vie un long processus ascendant et descendant, c'est-à-dire qu'on trouve dans les rapports entre soi, entre les individus et dans les sphères du pouvoir, par lequel la vie, en tant qu'énergie et puissance qui doit s'auto-affirmer positivement, est au contraire mise au service de ce qui la phagocyte, de ce qui la neutralise. Ici, la vie se soumet à autre chose qu'elle-même et à ce qui l'entrave et la désarticule dans son être même. L'expérience sociale qui incarne cette colonisation de la vie, à mon sens, c'est la zombification. De qu'est-ce qui est en cause dans l'idée de zombification ? Dans l'idée de zombification, la vie, donc je reprends l'idée que la vie est ici énergie et puissance qui s'auto-affirme, donc qui s'affirme par elle-même, lorsque la zombification, je l'entends ici comme un pouvoir de manipulation de la vie et de neutralisation de cette puissance même qui est à l'œuvre dans la vie et qui est à l'œuvre dans le corps même de l'individu. Donc si toute vie est animée par une énergie centrifuge, la zombification devient ici une énergie centripète qui absorbe cette énergie pulsionnelle qu'on retrouve dans la vie. Et la colonisation, comme le nom de cette force centripète qui est incarnée par la zombification, rend difficile tout parce qu'elle fonde, parce que la zombification n'est pas uniquement une expérience imaginaire, religieuse, mais parce qu'elle fonde aussi les modes de rapport à la communauté, parce qu'elle fonde aussi les rapports aux autres, entrave tout désir, contamine tout désir d'émancipation et neutralise radicalement les formes de lutte qui sont à l'œuvre dans la société. C'est-à-dire, voilà une société qui est en même temps tiraillée par un désir constant d'émancipation et en même temps dont la dynamique sociale tend à neutraliser ce désir constant d'émancipation parce, encore une fois, par une expérience sociale qui est renvoyée dans les travaux empiriques en anthropologie, en sociologie, à l'expérience, à la question de l'esclavage. Donc la zombification comme séquelle, en tout cas par sa manifestation, comme séquelle de l'esclavage. Sur le plan imaginaire, la zombification comme pouvoir absolu sur la vie apparaît comme le véritable nom de ce que j'appelle colonisation de la vie, parce qu'il est alimenté par un imaginaire magico-religieux, mais en même temps, parce qu'il serait le lieu où la colonisation de la vie s'enracine. De ce point de vue-là, la métamorphose de la vie en vie mourante, qui tend à devenir vie morte, se donne comme la voie de manière radicale, comme vie qui tend à s'effacer. La vie ainsi métamorphosée, c'est la zombification est un phénomène constamment courant en Haïti, particulièrement, et qui traverse toutes les classes sociales. On peut entendre des anecdotes selon lesquelles un individu qui est en train... moi, je l'ai entendu dans mon enfance, on me l'a raconté, je l'ai demandé à des gens qui viennent d'autres départements, un homme dont le nom est connu de tous, qui était un chauffeur de camion qui circulait régulièrement sur la route, était en même temps enchaîné parce qu'il avait giflé un prêtre vaudou. Donc cette capacité d'être vivant et en même temps d'être mort, l'idée de zombie c'est un mort vivant, cette capacité, cette puissance des manipulations de la vie, elle s'affirme au détriment de toute exigence d'émancipation. Donc pour l'ex-colonisé, la colonisation de la vie n'est pas un oxymore, c'est-à-dire l'idée de mort vivant n'est pas la contraction de deux termes contraires, parce que pour elle, pour l'ex-colonisé, la vie est quelque chose qui est maîtrisable, manipulable, vendable et susceptible d'être retourné contre elle-même. Or, si la vie est maîtrisable, manipulable, qu'est-ce qu'on fait du conatus ? Donc un zombie, c'est un individu dont la vie ne tend plus à persévérer dans l'être alors qu'il est encore vivant. Et en ce sens-là, la colonisation de la vie permet de penser une vie comme monnaie d'échange, puisqu'on peut transformer un être humain en vache, en chien, en bourrique. Et si vous demandez à quelqu'un, il vous dira qu'il peut vous donner la preuve que cela existe. Que cela existe ou non, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est les effets de ces phénomènes, soit imaginaire, soit social, sur les formes de lutte sociale dans les sociétés postcoloniales ici en Haïti. Donc, en langage spinoziste, je dirais que la colonisation de la vie produit une puissance d'affectation et qui rend les individus impuissants, donc c'est-à-dire qui les asservit. On dira aussi que la colonisation de la vie est un affect qui s'affirme contre un autre affect de moindre puissance, parce que la vie qui s'affirme tant à ne plus s'affirmer, à être neutralisé, à être au service de ce qu'il a servi, donc à être au service de la mort. Et les corps qui sont produits par la colonisation, ce sont des corps ici affectés, c'est encore l'image de Spinoza, dont la puissance d'agir s'amenuise, est neutralisée par une expérience sociale, qu'elle soit imaginaire, qu'elle soit réelle. Donc ici, en ce sens, qui est en jeu, si la colonisation de la vie produit une vie mourante qui tend à devenir une vie morte à travers une expérience sociale partagée par tous les Haïtiens, je prends, c'est l'exemple qui m'est le plus familier, parce qu'on y croit forcément, malgré nous. Donc si la colonisation de la vie est possible, si la vie peut être neutralisée, si elle peut être manipulée comme vie morte, comme vie mourante, si on peut produire des corps, des individus qui incarnent l'idée des morts vivants, où peut-on trouver l'énergie qu'il faudrait mettre au service de l'émancipation? Alors, il me semble que c'est dans le corps même. Puisqu'il y a encore cette image de Spinoza, je termine là-dessus, qui me revient là-dessus et qui me rend, nul ne sait ce que peut un corps, ou que peut un corps d'un zombie. Je vous remercie.
Et on va écouter à présent, pour la troisième et dernière intervention, Stéphane Dufouet.
Merci Mathieu. Je ne pas être capable de vous proposer une réflexion aussi élaborée que celle de mes deux collègues à cette table, parce que ce que je vous propose est en fait véritablement un élément très, très embryonnaire d'un projet en cours. En fait, qui est un projet sur la question de l'internationalisation des sciences sociales depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en particulier de la sociologie, et avec un accent sur une vision de l'internationalisation qui n'est pas conçue comme étant une simple diffusion d'un centre vers la périphérie, mais comme étant certes une diffusion, puisqu'on peut globalement considérer que la sociologie comme discipline naît effectivement en un endroit précis du globe, mais immédiatement de voir cette diffusion comme étant appropriée, c'est-à-dire comme correspondant à une forme de réfraction à l'intérieur des différents pays où cela se met en place. Et dans cette réfraction, dans cette appropriation qui est singulière par chacun de ces pays, semble se mettre en place assez rapidement un certain nombre de tensions qui sont justement une partie de ce qui m'intéresse avant tout. Parmi ces tensions, il y a en particulier, c'est celle sur laquelle j'insisterai le plus aujourd'hui, la question du national par rapport à la question de l'étranger. C'est-à-dire, pour aller très vite, dans ces sociologies naissantes, quelle est la part de ce qui vient de l'Occident et quelle est la part de ce qui est, en quelque sorte, national? La sociologie de ces pays, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, doit-elle être une sociologie scientifique, universelle, et par conséquent, la question de sa nationalité ne devrait pas se poser? Ou alors, s'agit-il d'une sociologie qui est nationale, c'est-à-dire qui est en quelque sorte adaptée au pays, à sa culture, éventuellement à sa langue, et susceptible de s'intéresser avant tout aux problèmes qui sont ceux de cette société? Donc c'est cette tension-là qui m'intéresse avant tout. Pour cela, j'ai proposé pour cette intervention, mais je me suis rendu compte en la préparant que finalement il faudrait un temps bien plus important que celui dont je dispose pour vous en parler réellement. En tout cas, je vais vous parler très brièvement de la trajectoire de quelques chercheurs, sociologues ou anthropologues qui justement viennent d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie. Volontairement, je n'ai pas choisi des auteurs qui sont particulièrement contemporains ou qui font partie intégrante aujourd'hui même, justement, des combats pour le décolonial, des combats pour la question de l'afropolitisme, des combats pour la question de sociologie asiatique, etc. pour montrer qu'en fait, la lutte contre l'hégémonie occidentale dans le domaine des sciences sociales n'est pas du tout quelque chose de contemporain, mais quelque chose de beaucoup plus ancien que cela. Et par conséquent, essayer de vous montrer à travers six trajectoires très différentes que cette question de la décolonisation, elle est bien plus ancienne qu'on ne peut l'imaginer. Et que les débats actuels ont tendance à complètement oblitérer l'existence, justement, de cette ancienneté et de l'historicité de ces questions-là, puisque je suis à peu près certain que si éventuellement vous avez entendu parler d'un ou deux noms des personnes dont je vais écrire le nom au tableau ici, je serais très surpris qu'une personne parmi vous connaisse les six. C'est-à-dire que même l'intérêt que vous pouvez avoir pour toute la question des luttes postcoloniales, décoloniales, épistémiques, etc., quel que soit cet intérêt-là, je serais très étonné que vous connaissiez le nom des six. Précisément parce que toute cette vague de... C'est peut-être pas une vague d'ailleurs, mais laissons ça pour l'instant. Toute cette dimension de lutte épistémique entre les années 50 et le début des années 1970 est certainement une des choses les moins connues qui soit à l'heure actuelle dans l'histoire des sciences sociales. Donc les personnes qui sont concernées, en tout cas par la présentation que je vais faire, que j'ai déjà commencé, sont les suivantes. Il s'agit du Colombien Orlando Falsborda, du Sud-Africain Archie Mafeje, du Malaisien Syed Hussein Alatas, du Brésilien Alberto Guerreiro Ramos et de l'Égyptien Anwar Abdelmalek. Oui, vous les connaissez tous.
Il n'y en a que cinq.
Il n'y en a que cinq. Ah oui, il y en a que cinq. Qui me manque-t-il dans cette histoire? Ah oui. Le sixième est l'Indien Yogesh Atal. J'ai eu peur que vous les connaissiez tous, qui auraient vraiment fait tomber complètement ma démonstration. La plupart de ces chercheurs-là sont nés, à l'exception de Guerreiro Ramos, qui est né en 1915. Tous les autres, et à l'exception d'Atal, qui est né en 1937 et qui est le dernier vivant de tout ceci, il a 80 ans cette année. En 2017. Tous les autres sont nés dans les années 20 ou dans les années 30. Et si on regarde leur parcours, on trouve tout à la fois un certain nombre de similitudes et un certain nombre de différences très importantes. Vous allez me dire, oui, ça n'est pas très étonnant finalement. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parler de ces chercheurs ne veut surtout pas dire qu'ils s'inscrirait à l'intérieur de quelque chose qui serait une forme de transnationalisme de la lutte contre-épistémique des années 50 aux années 1970. Il est, à ma connaissance, à peu près impossible de démontrer l'existence de liens entre ces différents chercheurs-là, entre les années 50 et les années 1970. Ce qui signifie qu'on a affaire à ce moment-là, sur cette période, années 50, années, début des années 1970, en fait à une forme de polygénisme de la lutte contre l'hégémonie épistémique. Cette lutte contre l'hégémonie épistémique, elle ne naît pas d'une forme de... d'organisation qui serait internationale ou qui serait organisée. Elle naît avant tout d'un certain nombre de conditions, qui sont des conditions sociales, intellectuelles, historiques, de possibilités, à l'intérieur même des pays en question, et dans un lien qui est très souvent un lien bilatéral entre un pays et soit l'ancien pays colonisateur, soit la puissance néocoloniale. Donc, pas de transnationalité en tant que telle, tout au moins sur cette période-là. Si j'ai encore un peu de temps, j'essaierai de vous montrer que la transnationalisation de ces luttes intervient juste après, au cours des années 1970. Donc pas de lien entre eux, mais d'un autre côté, dans la manière dont ils écrivent entre les années 50 et la fin des années 1960, la lutte contre une forme d'aliénation ou une forme d'oppression coloniale, hégémonique, occidentale, quels que soient les termes qu'ils utilisent, on a en revanche une conformité, une ressemblance qui est assez extraordinaire si l'on prend en considération le fait qu'il n'y a pas en tant que tel de lien entre eux. C'est ça avant tout qui m'intéresse. Donc, chacun d'entre eux a une époque un peu différente. Fals Borda, ça va être essentiellement à partir de la fin des années 60. Archim Afedje, même période. Alatas, on peut considérer que c'est véritablement fin des années 60 aussi. Guerrero Ramos commence plus tôt et Abdelmalek commence également plus tôt. On a cette idée qu'il est fondamental de commencer à penser autrement les sciences sociales. Essentiellement parce que la plupart du temps, soit ils vivent dans un autre pays que celui dans lequel ils sont nés, pour un certain nombre de raisons différentes. Anwar Abdelmalek, par exemple, est initialement un économiste et sociologue égyptien, qui est en fait un communiste, qui a été au bagne sous Nasser avant d'être libéré en 1956, qui émigre en France en 1959, et qui va ensuite faire une partie de ses études en France. Il passe une thèse de troisième cycle en sociologie en 1964, une thèse de lettres en 1969, et il entre au CNRS en tant que chargé de recherche au tout début des années 1960. C'est un des tout premiers qui, 15 ans avant Édouard Saïd, écrit sur la question de la crise de l'orientalisme et sur la question de la nécessité de considérer l'orientalisme comme une forme de colonisation intellectuelle. Il publie en 1963 donc cet article, La crise de l'orientalisme, dans une revue qui s'appelle Diogène, qui est une revue qui est publiée sous les auspices de l'UNESCO, UNESCO sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc lui, d'une certaine manière, est en exil en France, et va, il se présente d'ailleurs comme ça, hein, et il va lutter contre ce qui lui paraît être en France un orientalisme français qui ne laisse pas véritablement de place à la manière dont les penseurs arabes peuvent penser leur propre pays, ou peuvent penser leur propre civilisation ou leur propre région. Guerrero Ramos est dans une position qui est un petit peu différente. On a ici affaire, non pas, contrairement à la plupart des autres, à un sociologue, on va dire, de gauche, mais on a affaire au contraire à un sociologue qui a été proche du fascisme brésilien des années 1930, donc ce qu'on appelait le parti intégraliste, et qui est en fait un nationaliste. Mais il est un nationaliste proche de Getúlio Vargas, donc il va occuper des positions proches de l'administration Vargas, voire au sein de l'administration Vargas dans les années 1950, dans le contexte d'un très fort nationalisme brésilien. Et il représente d'une certaine manière au sein de la sociologie à cette époque-là, la sociologie brésilienne de cette époque-là, il représente un versant nationaliste très fort qui s'oppose d'une certaine façon à un autre versant de la sociologie brésilienne qui est un versant dont on pourrait dire qu'il est national en quelque sorte et qui est incarné par une autre figure de la sociologie brésilienne qui est celle de Florestan Fernandes qui lui estime que il est important d'avoir une sociologie nationale, mais que cette sociologie nationale doit s'appuyer quand même avant tout sur les écrits des principaux théoriciens, et que ces principaux théoriciens sont avant tout, non pas tellement des théoriciens américains, puisqu'il a été lui-même élève de Pearson, qui était donc l'un des initiateurs de la sociologie au Brésil à la fin des années 1930 et au début des années 1940. Et Fernandes s'est assez largement opposé à Pearson, justement, en critiquant son impérialisme américain. Et donc Fernandes, lui, est plutôt du côté européen. Il ne faut jamais oublier ça. C'est qu'il y a aussi, dans la tension entre, finalement, le pôle auquel on se réfère à l'intérieur de l'espace mondial des sciences sociales, il n'y a pas forcément l'image de l'Occident qui serait une sorte d'Occident unifié. Et là, au Brésil, comme d'ailleurs on pourrait le voir en Colombie, l'Occident, c'est avant tout les États-Unis. Et l'Europe peut très bien représenter une forme, justement, d'éloignement par rapport à l'orbite américaine, sans pour autant revendiquer une position nationaliste. Donc Fernandes est sur cette position finalement plutôt pro-européenne de la sociologie, plutôt spéculative d'ailleurs, beaucoup plus proche de Durkheim et d'ailleurs de Karl Marx aussi, alors que Guerrero Ramos, lui, dans une acception et une perspective très nationaliste véritablement de la sociologie brésilienne, estime qu'il faut essentiellement non pas se débarrasser des sociologues dits occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, mais qu'il faut avant tout se concentrer sur ce qui se passe au Brésil avant de commencer à importer des concepts et de commencer à importer des théories. Il ne préconise pas l'idée que la sociologie ne serait pas universelle. Non. On n'est pas dans une sorte de repli indigéniste tel que celui qu'on va voir apparaître un peu plus tard au cours des années 1970 et qu'on voit encore aujourd'hui dans un certain nombre de régions du monde ou de pays. Non, il estime simplement que l'universalité de la sociologie doit se faire et se démontrer à partir de la capacité à saisir exactement la réalité sociale des pays pris en considération. Or, Guerrero Ramos écrit ça en 1958. Il y a 60 ans. Je ne sais pas combien de sociologues français ou d'historiens français s'intéressant à l'histoire des sciences sociales connaissent la figure de Guerrero Ramos. Or, on a là affaire, ici, à une des principales contributions, justement, à cette volonté de décoloniser des sciences sociales, et on retrouverait exactement la même chose avec Emma Fedje et Alatas. Emma Fedje est, lui, un anthropologue sud-africain qui part à Cambridge pour rédiger sa thèse d'anthropologie sociale au début des années 1960. Au moment où il est en train de la rédiger en 1968, il la soutiendra en 1969, il obtient un poste à l'université de Cape Town. Et en fait, le gouvernement lui retire le poste. Lui retire le poste parce qu'il n'est pas véritablement de la bonne couleur de peau, Archie Mafeje. Et ça crée toute une affaire, qu'on appelle la Mafeje Affair, à cette époque-là, en 1968, où finalement, il n'obtient pas le poste en considération. Il va quitter l'Afrique du Sud. Il va partir enseigner dans tout un tas de pays très, très différents. Il va partir enseigner en Égypte, il va enseigner aux Pays-Bas, il va enseigner en Namibie, et il ne va revenir en Afrique du Sud qu'en 2000. Or, à partir de 1970, il va commencer à écrire, en particulier sur la manière dont les concepts qui sont utilisés pour décrire la réalité africaine, et pas seulement sud-africaine, sont des concepts qui, en fait, sont totalement plaqués, totalement importés, et qu'il est très important que justement les sciences sociales de ces pays anciennement colonisés ou toujours colonisés, puisqu'ils considèrent que l'Afrique du Sud est toujours un pays colonisé, il est très important justement de se départir de ces concepts-là. Un de ses articles les plus importants est un article rédigé en 1970 qui est sur l'idéologie du tribalisme, montrant que l'idée même de tribu et de tribalisme est en fait une conception et une conceptualisation totalement occidentale. 1984, il écrit un article qui s'appelle « New Sociology, Strictly for Europeans ?» qui est une critique justement de la manière dont la sociologie à l'échelle internationale, c'est-à-dire celle de l'Association internationale de sociologie, est en fait quasiment exclusivement une sociologie par des Européens ou des Nord-Américains, pour des Européens ou des Nord-Américains. Le cas d'Alatas, je vais vite, est un cas un petit peu encore un peu plus intéressant que celui-ci, parce que Alatas, en 1960, je vous reprends un peu biographie très très rapidement. Alatas est malaisien. Et en tant que malaisien, il part faire ses études de... alors en fait, essentiellement, ce sont des études de religion, on va dire, non pas de théologie, mais d'études des religions pour obtenir un doctorat de sciences politiques et sociales à l'université d'Amsterdam. Et il revient ensuite en Malaisie, s'engage politiquement de manière très forte, plutôt à gauche. Il devient même sénateur en 1971. Et ensuite, pour des raisons qui tiennent au fait qu'il est très opposé à la politique du gouvernement en place, il va en fait partir à Singapour, où il va devenir le chef du département, enfin le fondateur et le directeur du département des Malay Studies, donc des études malaises, puisque à cette époque-là, aussi bien à Singapour qu'en Malaisie, il n'existe pas de département de sociologie. C'est aussi ça qu'il faut voir. On peut très bien faire de la sociologie, mais à l'intérieur d'une autre forme de département. Alatas est intéressant parce qu'en 1974, il écrit un article qui s'intitule « The Captive Mind and the Creativity of Development ». Et cette idée de captive mind, qui rappelle peut-être à certains l'idée de pensée captive qu'on a chez Miwosh, mais qui n'est pas exactement de la même facture, cette idée de captive mind est très intéressante parce qu'il part du principe que justement, ce qui se passe au sein des communautés épistémiques des pays dits du Sud, même si à l'époque on n'utilise pas véritablement cette exception, est en fait justement une pensée captive et une pensée totalement étrangère. Et il appelle littéralement à lutter contre ce qu'il nomme en 1974 l'impérialisme méthodologique, qui n'est pas sans rappeler une autre formule qui elle aussi est utilisée à partir de 1974, qui est celle de nationalisme méthodologique, qui est beaucoup plus vieille qu'on peut le penser, et ce n'est pas Ulrich Beck qui a inventé cette expression. Enfin, le dernier, Falsborda, je garde Attal pour la bonne bouche et pour la fin. Falsborda est un sociologue colombien qui lui, paradoxalement, fait une sorte d'aller-retour. Il est entièrement éduqué aux États-Unis. Il fait son BA dans une université américaine, son MA dans une autre université américaine, sa thèse de sociologie à l'université de Floride. Il est le fondateur du département de sociologie de l'Université nationale de Colombie à Bogota. Et en fait, il aide à la formation des étudiants colombiens avec les fondations américaines, Fulbright, Rockefeller, Ford, à cette époque-là. Sauf que, à partir de 1966, la situation politique change en Colombie et il se retrouve en fait complètement dépassé en quelque sorte sur sa gauche. Et il se retrouve lui-même accusé d'être une sorte de vecteur de l'impérialisme yankee, parce que précisément il aide à la formation des étudiants colombiens via des fondations américaines. Il quitte la Colombie pour aller diriger l'Agence des Nations Unies pour le développement en Suisse. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce qui est sans doute un de ses textes les plus intéressants sur cette question de la lutte épistémique, finalement. C'est un texte intitulé La Ciencia Propia, donc la science propre, et qui est sous-titré Contre le colonialisme intellectuel, dans lequel il démontre qu'il est absolument fondamental de mettre en place une sociologie qui soit une sociologie colombienne, à partir d'une approche colombienne et à partir d'une méthode adaptée à ce qui se passe dans le monde. Donc je voulais simplement vous mettre en évidence ces sortes d'origines, cette multiplicité des origines de cette lutte contre une sociologie hégémonique, avant d'arriver, je finis là-dessus, à un exemple qui est intéressant et un tout petit peu décalé, qui est celui de Yogesh Atal. Yogesh Atal, il est entièrement formé en Inde. Il passe tous ses diplômes en Inde, sa thèse en Inde, et il devient, on va dire, pratiquement classiquement un professeur de sociologie en Inde. Sauf qu'à partir du début des années 1970, il est recruté par l'UNESCO. Et l'UNESCO le recrute pour diriger ce qui s'appelle le Social Science Research Council pour l'Inde, ce qu'il va faire pendant 2 ans. Et il obtient une sorte de promotion et il devient le conseiller pour l'Asie et le Pacifique de l'UNESCO. Or, on est à une époque, on est en 1974, où justement, alors que je vous disais que jusque-là, il n'y avait pas de forme de transnationalisation de tout cela, c'est par l'intermédiaire de l'UNESCO que va se mettre en place une transnationalisation de cette lutte contre les sciences sociales occidentales. C'est l'UNESCO, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses différents conseillers, qui va se retrouver à organiser des conférences dans lesquelles, notamment, vont commencer à se rencontrer un certain nombre de ces gens-là. Pas forcément tous, mais un certain nombre d'entre eux vont se rencontrer, vont discuter, vont échanger des idées, et notamment vont commencer à aller en direction d'une idée, d'une dimension qui jusqu'alors n'était pas véritablement la leur, ou pas obligatoirement, qui est la question de l'indigénisation. La question de l'indigénisation des sciences sociales, elle commence véritablement à apparaître au cours des années 1970, et elle apparaît non pas d'une façon endémique à l'intérieur de ces pays, mais elle apparaît à l'intérieur d'une sorte de programme de l'UNESCO pour justement favoriser ce qui est appelé à l'époque le développement endogène, qui est une expression qui a commencé à être utilisée au tout début des années 1960 à l'UNESCO et qui va être véritablement institutionnalisée à partir des années 70. Et Yoga Shatal est important parce qu'en 1981, il écrit dans l'International Social Science Journal un article qui s'appelle « A Call for Indigenization », un appel à l'indigénisation, qui va devenir un texte très important justement pour la constitution d'une sorte d'international, si l'on veut, ou de transnational des sociologues ou des spécialistes de sciences sociales souhaitant lutter contre l'hégémonie occidentale. Je m'arrête. Merci.
Merci à vous trois. On a une vingtaine de minutes pour des questions, environ. Donc n'hésitez pas à prendre la parole.
Tu peux commencer. Moi je vais.
Il y a monsieur à gauche, sinon.
Ah, pardon. Allez-y.
Je vais revenir à la première intervention, parce que c'est une histoire qui m'intéresse et qui. Je connais quelque chose, donc ça se passe aussi. On est arrivé à 1937, peut-être des années 40, dans Vassy. Est-ce qu'il est possible d'avoir quelques infos sur ce qu'il est resté du Parti communiste haïtien après ce que j'ai compris, plus ou moins son écrasement hein. Et jusqu'à 45, moi je connais un peu pas grand l'histoire de Gérald Boncourt. 45, donc plutôt avec une affaire de Sudan aussi, son regard pour un prince.
C'est qui, vous avez dit la deuxième personne?
Le Sudan aussi. Ah. Sudan aussi Césaire, c'est une histoire que j'ai appelée récemment, donc sur son passage à Port-au-Prince et la question de en gros la censure dont les étudiants communistes avaient été victimes. Donc voilà, quelle a été la. Le hiatus, quelle a été la reconstitution ou le passage malgré tout du communisme haïtien à la génération qui a suivi.
Ouais. Bon, moi je voulais juste parler du début du communisme haïtien, c'est-à-dire avec Jacques Roumain qui a vécu l'occupation américaine de 1915 à 1934 et puis qui est mort en 1944. Après, vraiment, il y aura le mouvement communiste proprement dit sera vraiment structuré, organisé, même persécuté. C'est à partir des années 1950-60 avec Jacques-Stéphane Alexis qui est considéré comme l'un des disciples de Jacques Roumain. En plus, il y aura aussi René Depestre, à un certain moment, le premier Depestre, c'est pas le deuxième Depestre. Et après, comme vous avez dit, il y a Gérald Boncourt aussi. Et c'est l'événement 1946, la révolution de 1946 qui a vraiment déclenché le mouvement communiste proprement dit. Donc, si vous voulez vraiment cerner ce mouvement, parce que moi, j'aimerais pas parler du communisme haïtien à partir de Jacques Roumain. Je voulais juste esquisser les grands points du début de ce mouvement, de l'analyse schématique. Mais le mouvement, il est vraiment structuré à partir du premier Duvalier, disons François Duvalier. Et c'est pendant cette période que Jacques-Stéphane Alexis a été assassiné par ce pouvoir, parce qu'il est considéré comme l'un des disciples de Jacques Roumain. Voilà. Si vous voulez vraiment cerner ce mouvement, c'est surtout chez Jacques-Séphane Alexis et aussi chez Gérald Blancourt, qui est encore vivant, je crois. Et après, chez René Despestes, comme je vous avais dit, le premier Despestes. Voilà.
J'ai une question pour Jean-Jacques aussi. J'ai pas très bien compris quel rôle jouait Stanio Vincent vis-à-vis de l'impérialisme américain, mais aussi vis-à-vis des revendications à la fois paysannes et ouvrières. C'est-à-dire, est-ce que c'était vraiment un vecteur impérialiste, ou alors est-ce que... Alors, voilà, j'ai pas bien compris les contradictions qui se jouaient dans ce personnage.
Mais Stanio Vincent, lui, il a pris le pouvoir dans les années 1930. Par contre, il avait promis de faciliter la désoccupation du pays. Mais comme nationaliste, Jacques Roumain, qui l'avait soutenu, donc était un peu déçu. Donc voilà. Donc c'est lui qui a réprimé beaucoup de militants pendant cette période. Et peut-être qu'il avait promis la désoccupation du pays avec certains communistes comme Christian Beaulieu, Étienne Charlier. Donc c'était comme s'il incarnait un espoir un peu nationaliste de gauche, parce que ce mouvement nationaliste, il a pris naissance sous l'occupation américaine pour prendre en compte les revendications paysannes. Par contre, du coup, il a plutôt collaboré avec les occupants. S'il voulait juste...
Il n'a pas été mis au pouvoir par les occupants.
Par les occupants. Qu'est-ce que vous appelez par les occupants?
Par les Américains.
Au début, non, j'ai pas bien saisi. J'ai pas trop travaillé son arrivée au pouvoir. Donc je voulais juste regarder ces répressions par rapport aux militants communistes, notamment Jacques Roumain. Voilà. Mais au début, il incarnait un nationalisme progressiste. C'est pourquoi peut-être au début, il n'avait pas collaboré avec les occupants. De la période, c'est ça?
Oui, voilà.
Il y a l'un.
S'il a voyagé à Paris durant
À Paris?
S'il a voyagé à Paris durant la période des années 30, et si du coup il a pu avoir des connexions avec d'autres intellectuels?
Non, normalement, à ma connaissance, il n'a pas voyagé à Paris dans les années 1930. Il a plutôt voyagé aux États-Unis en 1932. Sous l'invitation de Lenson Hugues, je crois, c'est un poète, communiste, donc qui était de passage en Haïti en 1931, qui l'a invité aux États-Unis en 1932. C'est après ce voyage qu'il a été arrêté pour conviction communiste en 1933, et que c'est pendant ce voyage aussi aux États-Unis qu'il a écrit l'analyse schématique. Mais en même temps, il était en contact avec Tristan Rémy en 1931. Mais à ma connaissance, je ne sais pas s'il a voyagé à Paris. Mais il était en contact avec Tristan Rémy.
Après,
mais ça c'est sûr. Pendant son exil, en 1941. Mais pour son devenir communiste, il me semble que c'est son voyage aux États-Unis en 1932 avec Christian Beaulieu. Parce que le livre, l'analyse schématique, il a été écrit un tout petit peu avant. Parce que l'analyse schématique 32-34 veut dire qu'il faut prendre en compte la période 1932-34. Donc je pense que c'est pendant son voyage qu'il a élaboré ce bouquin avec d'autres collègues, Christian Beaulieu et Étienne Charlier, et qui a déclenché son devenir communiste. Parce que jusqu'à 1929-30, il était encore ancré dans un mouvement nationaliste. C'est à partir de 31-32 qu'on commence à voir dans ses écrits, parce que moi j'analyse les écrits comme étudiant en philosophie. Donc c'est dans les écrits à partir de 1932 qu'il commence à afficher sa conviction communiste. Allez-y. C'est à partir de quelle période, de quelle année?
La revue, elle a été éditée à Paris, mais c'est fondée par un groupe d'étudiants martiniquais qui parle du
martiniquais. Peut-être l'Orphée Noir? Non, c'est pas l'Orphée Noir.
C'est la revue Légitime Défense.
Ah, ouais.
De numéro 1. Numéro 2.
Je sais pas.
Je crois que ça, c'est accessible en ligne.
Je sais pas,
étudiant martiniquais.
Non, c'est légitime. Ouais. Mmh. Mais il n'y avait eu qu'un ou deux numéros, je crois.
Il y avait eu un numéro, mais justement, voilà, en gros,
c'est l'influence surréaliste aussi.
Oui, c'est surréaliste.
Tu sais ça, ça ?
Non, je ne sais pas. Je ne savais pas.
En fait, j'ai vu comme
une référence. Merci,
Elisabeth. Oui, je suis désolé de mon retard. Je ne sais pas si la question a été déjà répondue. Vous, est-ce qu'on voit quelle réception a eu au niveau international ? Question sur la commission du foie. Et les apports de ces chercheurs ont-ils été victimes de l'ostracisme ou bien quelle réception ça a eu ? Leur contribution au niveau de la communauté
Alors, il faudrait différencier selon les uns et les autres. Ce qui est certain, c'est que globalement, ils ne publiaient que relativement peu dans des revues qui étaient des revues phares de la discipline au niveau international. Donc, ils pouvaient publier dans d'autres langues. C'était généralement dans des revues qui soit étaient proches de l'UNESCO. Donc je citais Diogène pour Anwar Abdelmalek, l'International Social Science Journal qui a été très important aussi, dans lequel il y a eu des articles d'Alatas, dans lequel il y a eu des articles d'Anwar Abdelmalek également. Sinon, très souvent, c'était pour Falsborda et pour Guerrero Ramos, c'était très souvent uniquement cantonné à une publication en espagnol. Et très peu de traductions, et en particulier il n'y avait pas véritablement de réception de ce qu'ils écrivaient au niveau de la sociologie américaine ou au niveau des sciences sociales américaines ou européennes. Quand on regarde finalement un petit peu plus précisément, si on prend le cas soit d'Anwar Abdelmalek, soit le cas d'Alatas, un des premiers à véritablement reprendre leurs idées et qui va aussi les diffuser, mais d'une certaine manière également les faire passer au second plan, ça va être Edward Said. Quand il publie Orientalism en 1978, il cite Anwar Abdelmalek, il cite aussi un ouvrage d'Alatas qui s'appelle The Myth of the Lazy Native, donc qui est sur le mythe du natif fainéant, et qui est consacré uniquement à la manière dont, notamment en Malaisie et en Indonésie, il y a une conception, y compris nationale, selon laquelle il faut justement lutter contre cette sorte de paresse ou de fainéantise du natif indonésien ou malais. Et Edward Said reconnaît sa dette à l'égard d'Alatas notamment. Sauf que Alatas est un auteur qui, sans être entièrement méconnu, n'a jamais connu l'espèce d'aura qui a été celle de Saïd à partir de 1978 et de la publication d'Orientalism. Sans doute également parce que ces auteurs, c'est une des hypothèses qui a été émise par Thomas Brisson, notamment dans sa comparaison entre Anwar Abdelmalek et Edward Said, où il dit pourquoi est-ce que finalement on connaît le nom d'Edward Said et pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas le nom d'Anwar Abdelmalek alors qu'il a écrit 15 ans avant Edward Said. Bon, il faut voir qu'Anwar Abdelmalek écrit un article alors que Said écrit un ouvrage entièrement consacré à cette question, mais surtout il n'écrit pas du tout à la même époque. Et ça, c'est fondamental. Said écrit en s'appuyant sur les acquis tout à la fois de Foucault et de Gramsci. Et par conséquent, il vient se lever à l'intérieur d'un mouvement qui est un mouvement complètement différent de celui dans lequel des gens comme Anwar Abdelmalek pouvaient penser. Et il écrit, à partir d'une discipline, les études littéraires comparées, la littérature comparée, qui en quelque sorte va permettre, dans sa constitution américaine, va permettre de développer ce genre d'études. Saïd n'est pas avant tout reçu à l'intérieur de disciplines qui seraient l'histoire ou la sociologie ou la science politique. C'est de la littérature comparée. Et donc c'est une réception qui se fait en quelque sorte par la bande ou par la périphérie. également, sauf que la littérature comparée va devenir, à partir de la fin des années 70 et des années 1980, l'un des fers de lance de tout ce qui est au cœur de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Cultural Studies, Postcolonial Studies, etc. Et donc, la littérature comparée va ensuite infuser à l'intérieur de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la science politique, alors que ces auteurs-là, à partir de la sociologie, ont une vision qui est finalement très marginale par rapport à ce qui se fait à l'époque, et on pourrait même dire d'une certaine façon encore marginale par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, sauf depuis les années 1990, où à partir du moment où commence à émerger l'idée d'une global sociology, on commence à s'intéresser à la sociologie des Suds et à la théorie des Suds. Vous évoquiez tout à l'heure Boaventura de Sousa Santos dans toute cette question-là, mais on pourrait dire Rewin Cannell également, l'idée de Southern Theory, donc qui date de 2005 ou de 2007, si ma mémoire est bonne, et où là, on a tout un courant qui se développe, qui va reprendre ces auteurs anciens, mais qui peinent encore à, on va dire, intégrer le cœur de la théorie sociologique et les études sociologiques, parce que ce ne sont pas les auteurs qui sont finalement les plus connus à cet égard. Même de Sousa Santos est finalement plus connu en France pour sa conception de soit de la philosophie, soit de l'anthropologie, véritablement que pour sa question de l'épistémologie des Suds, de la même manière que Rewin Cannell est plus connu pour ses études sur la masculinité, ce sont d'ailleurs les textes qui ont été traduits en français, que pour sa conception de la théorie du Sud. Donc il faut vraiment relativiser les questions de réception également, et ne pas du coup prendre les textes uniquement à partir de ce qu'ils sont.
Je me demande si on ne pouvait pas élargir la liste en incluant. Non, mais c'est quelqu'un probablement qui n'est pas familier ici. C'est Firmin, Joseph Antonin Firmin, par rapport à son ouvrage intitulé De l'égalité des races humaines de 1859. Mm-hmm. Donc consacré, c'est plus à l'anthropologie qu'un sous-titré Anthropologie positive. Mm-hmm. Donc, c'est une critique de l'anthropologie par rapport à la question de la race, et Firmin tente de montrer en quoi l'anthropologie est entravée parce qu'elle prétend fonder de manière scientifique l'inégalité des races. Et donc on pourrait dire que son travail s'inscrit dans une perspective de refondation de l'anthropologie. On pourrait parler des décolonisations de l'anthropologie. Donc moi, je soumets ça juste comme une remarque possible, c'est à vous de voir, de vérifier.
Je pense que vous avez raison, on va dire, sur le principe, c'est-à-dire sur le contenu de ce qu'il peut y avoir chez Firmin. Je ne suis pas certain, en revanche, qu'on pourrait exactement le rattacher aux chercheurs dont il est question, parce que d'une part, on a quand même un bon siècle d'écart. Donc du coup, la question de l'historicité n'est pas du tout la même. Et d'autre part, je m'attache, on va dire, la plupart du temps à des auteurs qui, eux-mêmes, s'inscrivent à l'intérieur de la discipline sociologique en tant que telle. D'accord. En tout cas, pour ceux que j'ai pris ici. Mais vous avez raison sur le fait que, bien évidemment, on pourrait remonter et trouver des exemples qui sont similaires. Je vous donne juste un exemple. La façon dont les travaux de Spencer ou dont les travaux d'Auguste Comte ont été diffusés internationalement est quand même une des choses qui est relativement peu connue dans les histoires de la sociologie. À ma connaissance, le premier institut de sciences sociales qui est créé, bien avant ce qui peut exister en France, aux États-Unis ou en Angleterre, il est créé à Caracas, 1877. Je ne suis pas certain que ça soit une date qui fasse qui fasse foi dans la plupart des ouvrages d'histoire de la sociologie, tout ça parce que le président de la République, élu au début des années 1870, était un admirateur d'Auguste Comte et qu'il avait donc initié la création d'un institut de sciences sociales. Alors le comtisme à cette époque et le positivisme a aussi une vision qui est particulière. Le terme de sociologie est utilisé, il n'est pas forcément utilisé dans le sens qui est aujourd'hui celui de sociologie, mais d'un autre côté, le terme de sociologie est aussi utilisé par Spencer à peu près à la même époque, puisque 1877, c'est à peu près l'époque où il écrit les Principles of Sociology. Et la manière dont il entend le terme de sociologie n'est pas non plus le même que celui qu'on entend aujourd'hui. Donc il faut partir aussi des conceptions émiques et contemporaines du terme. Mais merci pour l'idée, effectivement.
On peut prendre une toute dernière question.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la suggestion de Cahill Sadler en faisant référence à Firmin, parce qu'au fond, toute la deuxième partie du livre de Firmin, elle construit comme idée d'une culture qui part de l'Égypte, quoi. Et c'est cette grande idée qui sera reprise, évidemment, pas par Dieu, peut-être pas. Et est-ce que ça, effectivement, c'est pas quelque chose qui, à la différence peut-être d'Auguste Comte, parce que ça. On s'inscrit malgré tout dans une continuité. C'est quelque chose qui ne va pas arrêter, je veux dire. C'est peut-être dans l'imaginaire, mais un imaginaire théorique fort. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait eu d'interruption. J'ai l'impression qu'il a cessé jusqu'à aujourd'hui d'être une hypothèse théorique.
Vous avez raison, c'est déjà quelque chose qu'on retrouve. Qu'on a chez Frobenius, qu'on a chez Du Bois. Également dans les âmes du peuple noir, hein, cette idée de la trace égyptienne. Et bon, effectivement, vous dites le chercher ensuite dans les années 50 chez Diop, chez Martin Bernau en 1985 avec Black Athena notamment. Bon, oui, c'est certain. En revanche, là, on vient couper à l'intérieur des disciplines. Donc c'est effectivement un fil. Qui court, mais qui, en revanche, à partir de ce que j'essaye de faire, est en quelque sorte un peu... vient couper par moment la trajectoire des sciences sociales, mais qui n'est pas obligatoirement ce qui va faire sens dans cette question, justement, de la décolonisation des sciences sociales. Parce que alors, il faudra aller plus loin, hein. Comme je vous le dis, je ne suis qu'au début. Mais je n'ai pas l'impression, par exemple, que les sociologues africains s'appuient énormément sur Diop. C'est une impression. Il faudrait véritablement ensuite démontrer ça de manière empirique. Mais je n'ai pas l'impression que dans cette idée d'une sociologie qui pourrait être une forme de sociologie, on va dire, soit indigène, soit une sociologie autochtone, ce qu'on trouve par exemple chez Akinsola Akiwowo à partir du milieu des années 1970, il n'y a pas véritablement de reprise de cet imaginaire-là. Donc merci là aussi de la suggestion, je vais voir ce qu'il est possible d'en faire, mais à ma connaissance comme ça, je ne trouve pas de réélaboration à l'intérieur de la discipline.
La toute dernière.
C'est un commentaire déjà sur l'intervention de Stéphane Dufoy. Et c'est par rapport à l'époque où ces consorts ont élaboré ces critiques de la consort occidentale. Et c'est pas ex nihilo, hein, ils ne sont pas par concomitance, c'est coïncidence. Expliqués et qui sont arrivés à leur produit. Il faut dire que c'était la fin de la guerre, c'est la guerre mondiale, la fin de la guerre, l'indépendance de l'Inde, la révolution chinoise, la révolution cubaine. Hein. Et dans ces grands élans, hein, sont fondés même Bandung, hein, 55, qui a fondé quelque chose, l'apparition des non-alignés dans les années 60, et puis les tiers-mondismes, hein, justement à cette époque-là. Et dans les années 70, si vous vous rappelez bien, il y a eu à l'UNESCO la gestion, la direction de Madou Matambo qui a provoqué le départ des États-Unis et du Royaume-Uni, non, une protestation par cet élite tiers-mondiste qui s'était inséré à l'ONU. Il y a des consorts comme Animal Tijano, qui est un enfant de cette époque-là, dans les années 60 et 70, il était sociologue déjà, il exerçait, et il était un marxiste très occidentalisé, formateur des cadres du MIR peruvien, mouvement de la gauche révolutionnaire. Il a évolué par la suite. Donc c'est une conséquence de tout ce travail de pensée critique. Bon, c'est pour Jean-Jacques Fadet. Une question concernant l'interaction du Parti communiste haïtien avec les autres mouvements communistes en Amérique latine. Ah, vous avez signalé qu'il avait qualifié l'expérience de hermétique. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Nous nous sommes ensuite l'apparition du Parti socialiste de Pedro Marias Beguis.
Ah oui.
La révolution mexicaine à l'époque, Lázaro Cárdenas qui est au pouvoir, justement à ce moment-là, quel genre d'influence en interaction a eu lieu entre les Haïtiens et les autres?
Avec Maria Tegui, je crois qu'il a écrit 7 leçons sur la réalité péruvienne. C'est vrai. Parce que le problème, c'est que Romain est contemporain de, disons, à peu près contemporain de Maria Tegui, mais il n'était pas en discussion, autant que je sache. Parce que je n'ai pas vu des références de Maria Tegui dans les écrits de Romain. De même que j'ai lu ce bouquin, il n'y a pas eu de référence non plus de Jacques Romain. En termes de connexion politique avec le mouvement communiste, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Dans l'analyse schématique, il n'y a aucune référence de l'Amérique latine. Parce que la présence de l'Amérique latine dans les mouvements communistes haïtiens se fera sentir vers 1960-70, beaucoup plus avec la théologie de la libération, vers 80-90. Mais avec Romain, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà.
Juste sur ce que vous dites, bien évidemment, hein, vous avez raison, là j'avais relativement peu de temps, déjà j'en ai pris plus qu'il ne m'était alloué. Bien évidemment qu'il faut aussi saisir tout cela. Je pense que finalement, il est plus facile et plus couramment considéré qu'il y a une influence du tiers-mondisme là-dessus, qu'il y a une influence de ce qui se passe dans chacun des pays. Donc justement, en insistant aussi sur cet ancrage et sur la manière dont il faut comprendre l'évolution des disciplines à l'intérieur de chacun de ces pays, parce que cela joue également un rôle, on peut du coup, à mon avis, par la suite, venir articuler une dimension nationale, une dimension transnationale qui est effectivement celle de Bandung, à mon avis plus de Bandung que de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et un niveau international qui est justement celui de l'UNESCO. Même si l'UNESCO, et vous avez entièrement raison de le dire, je l'ai mentionné en passant et sans entrer dans les détails, l'UNESCO joue un rôle particulièrement important à ce niveau-là, essentiellement à partir des années 70, mais en s'appuyant aussi sur ce qu'a été l'action de Joseph Needham à l'UNESCO sur les années 1946-1948, c'est-à-dire au moment de la première présidence, celle de Julian Huxley. Et Needham insistait sur ce qu'il appelait le principe de périphérie. Et ce principe de périphérie va très vite dans les années 50-60 disparaître et va revenir dans les années 70, notamment en lien avec la question du nouvel ordre économique international qui va être lancé à partir de 73, si ma mémoire est bonne. Donc oui, la complexité, c'est justement de relier toutes ces pièces de puzzle. Merci.
Merci beaucoup. On s'arrête là parce que les prochains ateliers reprennent dans 7 minutes. Merci.
Celle-là ou les deux?
Non, les deux. Ouais, ça, il a fait 230 si tu veux. Je vais le prendre.